Donc oui, je fais partie de l'équipe pastorale ici à Victoire et j'ai une joie énorme de pouvoir m'occuper de la jeunesse au sens large et puis de ce qu'on nous avons appelé le chemin du disciple. Et vous savez que les pasteurs sont en vacances, donc le pasteur John m'a demandé de prendre la parole ce matin et d'aller dans cette direction de liberté qu'il a commencé de présenter la semaine dernière. Et le pasteur Peter a dit un mot hier soir et il l'a répété ce matin qui tourne en moi et je pense vraiment que c'est une direction pour cette église. Cette année, c'est le mot plénitude. Et vraiment de vivre la plénitude de la liberté que nous avons en Christ. Et ce mot plénitude, l'apôtre Paul en parle quand il visite les Romains. Il leur dit, je suis venu vous voir dans la plénitude de la bénédiction. Et moi, je ne sais pas si ce mot vous interpelle, mais moi, il m'interpelle. Ce mot plénitude. Et je crois que cette année, nous sommes appelés à vivre cette plénitude de la liberté que Christ a acquise pour nous. Mais vous voyez que pour vivre une telle chose concrètement dans nos vies, il y a certains fardeaux à déposer. Et lorsque le pasteur John a commencé à parler avec son équipe pastorale en fin d'année dernière sur ce thème pour 2014, j'ai commencé à y réfléchir, j'ai commencé à y méditer. Et les premières paroles qui me sont venues en lien avec ce thème de liberté, c'était le fait d'être libéré de la culpabilité. Et je crois que s'il y a quelque chose qui va essayer d'entraver la liberté que nous avons en Jésus-Christ, s'il y a quelque chose qui va essayer de voler, égorger et détruire notre liberté, c'est la culpabilité. Le verset dans Galates, il nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il ne dit pas que c'est pour la culpabilité que Christ nous a affranchis. Et nous devons être délivrés, une fois pour toutes, de la culpabilité. Et c'est mon message pour ce matin, d'être libéré de la culpabilité. La culpabilité est un ennemi de notre liberté. Et nous allons voir qu'il n'y a pas de réponse facile à cette question. Mais nous allons voir qu'il faut comprendre pleinement ou comprendre la plénitude de la rédemption. Vous savez que s'il y a un seul mot pour résumer ce livre, c'est le mot rédemption. Le mot rachat, qui est un synonyme de rédemption. C'est aussi un thème que nous évoquons dans le cours des fondements du croyant le dimanche matin. Mais bien comprendre, c'est ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Ceux qui comprennent pleinement la rédemption vivent pleinement leur liberté. Je répète ça encore une fois. Ceux qui comprennent pleinement la rédemption vont vivre pleinement leur liberté en Jésus-Christ. Et nous allons détailler en guise d'introduction, ce texte qu'il y a sur cette bannière ici, le mot liberté, et c'est pris de Galates chapitre 5, verset 1. Et la première partie du verset nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté, pas pour la culpabilité, n'est-ce pas? Et ce qui est la première chose à laquelle j'aimerais vous rendre attentif sur ce passage, c'est que j'ai souligné nous a affranchis. À quel temps est ce verbe? Est-ce que c'est un verbe passé? Est-ce que c'est un verbe qui est au présent? Ou c'est un verbe qui est au futur? C'est un verbe qui est au passé. Autrement dit, cette liberté, elle nous appartient déjà. On pourrait dire que nous n'allons pas vers une liberté. Nous venons d'une liberté. Et cette liberté, elle a été acquise par ce que Christ a fait pour nous. Je ne peux pas, par moi-même, obtenir cette liberté dont nous parlons cette année. Mais je peux accepter cette liberté par la foi et vivre la plénitude de cette liberté parce que c'est la grâce qu'il a acquise pour moi. Je ne peux pas la saisir par mes propres efforts, je ne peux pas la saisir par mes propres œuvres, mais je peux l'accepter parce que c'est un cadeau et un don de Dieu pour ses bien-aimés. Donc nous n'allons pas vers une liberté. N'essayez pas de saisir cette liberté par vos propres œuvres. Vous devez comprendre que cette liberté a déjà été acquise, déjà été obtenue par le travail et l'œuvre de la rédemption, et cette liberté se saisit par la foi. Mais la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Et il faut connaître la volonté de Dieu, il faut connaître ce que la Bible dit sur la rédemption pour pouvoir vivre la plénitude de cette liberté et être débarrassé complètement de la culpabilité. En 2011, nous traitions ici dans cette église le thème de l'autorité. Et j'avais reçu fortement dans mon cœur qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui vivaient dans la culpabilité et cela ne leur donnait aucune autorité spirituelle. si tu es dans la culpabilité, non seulement tu n'es pas en train d'expérimenter la liberté que Christ a acquise pour toi, mais tu n'as aucune base pour exercer dans l'autorité spirituelle. Et ça passe avec le traitement de la liberté. Mais comprenez que cette liberté a déjà été acquise, elle a déjà été payée. Deuxième chose, j'ai mis en parenthèse, je me suis permis d'ajouter le mot « racheter » sur ce verset de Galates 5.1. Pourquoi ? Parce que nous devons comprendre que cette liberté, elle a coûté quelque chose à quelqu'un. La liberté que nous avons en Christ, elle a coûté quelque chose à quelqu'un. C'est la définition de la rédemption. Être racheté veut dire que nous sommes libérés parce qu'un prix a été payé. Vous pouvez être, par exemple, le libérateur de quelqu'un sans payer un prix. À ce moment-là, vous êtes libérateur. Mais lorsque vous êtes libérateur et que c'est vous qui payez le prix pour la liberté de quelqu'un d'autre, vous devenez rédempteur. La rédemption, c'est une liberté qui a été acquise parce qu'un prix a été payé. Quel est le prix qui a été payé pour notre liberté ? C'est la vie du Seigneur Jésus. Et nous ne devons jamais, 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 jamais oublier que cette liberté, oui, elle est gratuite, mais elle a tout coûté au Seigneur Jésus. Alors, pour honorer ce que Christ a fait pour nous, nous devons vivre dans la liberté. Si tu vis dans la culpabilité, tu n'es pas en train d'honorer ce que Christ a fait pour toi. Parce qu'il a dit que c'était pour la liberté qu'il nous avait rachetés. Et lorsque tu comprends que cette liberté a coûté une vie, la vie de quelqu'un qui était sans tache, la vie de quelqu'un qui était parfait, la vie de quelqu'un qui était juste, tu comprends que la pleine mesure de bénéficier de ça, c'est d'entrer pleinement dans la liberté. Mais certains, ils sont dans une cellule, la porte est ouverte, quelqu'un a payé leur caution, mais ils restent dans la cellule. Mais ça a été payé, pourquoi tu ne sors pas ? La liberté est là. Lève-toi et sors. Mais certaines personnes sont restées coincées dans une prison de culpabilité. Et pourtant, la porte de la liberté est ouverte, mais ils sont restés entravés, piégés, prisonnés par la culpabilité ou par une conscience de péché. Et je priais pour une femme américaine dans mes voyages. Là, j'étais en Suisse. Et cette jeune américaine avait vraiment un problème de culpabilité, de honte, etc. par rapport à certaines choses. Et à un moment, je commençais à prier et je partais un petit peu dans une dimension prophétique et je disais, sors de ta prison maintenant. C'est libre. Le verrou a été éclaté en Jésus. Jésus a payé ta caution. Il est la rançon pour ta liberté. Honore ce que le Seigneur a fait pour toi et sors et profite de ta liberté et sors de cette culpabilité. Elle a eu comme une percée spirituelle. Elle a commencé à pleurer de la tête aux pieds. Je ne sais pas si ça se dit, mais elle était tellement... Il y a eu une percée spirituelle parce qu'elle a compris qu'en fait, elle restait dans quelque chose alors que la liberté lui avait déjà été promise. Et c'est ça, cette liberté qui nous a rachetés. Ça veut dire que cette liberté, elle a coûté un prix. Et cette liberté, nous devons la prendre par la foi. Nous ne pouvons pas rester dans la culpabilité. Il est notre libérateur, celui qui a payé le prix nécessaire pour satisfaire la justice divine, pour que nous puissions vivre libres. Waouh ! Comment est-ce que je peux en bénéficier ? Vous savez que dans nos vies actuellement, tant qu'on ne paye pas, on pense que ça n'a pas de valeur. On a toujours l'impression qu'il faut payer pour pouvoir, ou on a toujours l'impression qu'on doit mériter quelque chose. Mais je vous donne quelques exemples. Si on vous offre le resto, est-ce que vous allez aller payer derrière ? Si on paye vos impôts, est-ce que vous allez vouloir insister pour payer ensuite par-dessus ? Ça n'a pas de sens. Mais certaines fois, au lieu de saisir la grâce de Dieu, le cadeau de Dieu, le don de Dieu pour nos vies, qui s'accepte et qui dit « oui, je le reçois ». Il n'y a rien que tu ne puisses faire pour acquérir la liberté que Christ a acquise pour toi. La seule chose, en d'autres termes, la liberté, elle ne se mérite pas, elle s'hérite par la foi. La liberté que Christ, étant donné qu'elle a déjà été payée, il n'y a rien que tu puisses faire. Tu ne peux pas payer par-dessus pour l'avoir. Tu ne peux pas faire une œuvre pour l'avoir. Elle ne se mérite pas. Elle s'hérite par la foi. Dieu te l'offre et tu dis, merci beaucoup. Mais certains, vous avez de la peine à recevoir des cadeaux. Et lorsqu'on a de la peine à recevoir des cadeaux, on a du mal à recevoir la grâce de Dieu. Et on préfère rester en prison au lieu de sortir et d'être libre. Parce qu'on se dit, il y a quelque chose que je dois ajouter. Tout est accompli. Tu ne peux rien ajouter pour hériter la liberté que Christ a prise pour toi. Et dans Éphésiens chapitre 3, verset 12, la Bible nous enseigne comment saisir cette liberté. Vous avez déjà peut-être entendu en français, on dit qu'il faut saisir une opportunité. Ah, j'ai une opportunité, il faut la saisir. J'ai une opportunité de travail, il faut la saisir. Eh bien, cette liberté, elle est déjà pour nous, mais il faut la saisir. Il ne faut pas la laisser passer. Il faut la prendre. Et la culpabilité va être un frein pour la saisir. Mais ce qui nous permet de saisir ce que la grâce a acquis pour nous, c'est la foi. La foi ne peut que saisir ce que la grâce a acquise pour toi. Je répète, la foi ne peut que prendre, la foi c'est ta main à toi, elle ne peut que prendre ce que la grâce de Dieu a pourvu pour toi. Et vu que la grâce de Dieu a déjà été pourvue pour toi dans le plan de la rédemption totale, tu peux la saisir avec ta main par la foi. La grâce, c'est la main de Dieu. Il te tend sa main. Il te dit, saisis cette liberté, elle t'appartient. Ne reste pas dans la culpabilité. Saisis-la. Comment est-ce que je la saisis? Lorsque je comprends. Et je prends ma main, dans la main de grâce de Dieu, je prends ma main de foi et je dis « ouf » et je l'amène à l'existence. Ma main de la foi ne peut saisir ou ne peut que saisir ce que la main de la grâce de Dieu, lorsqu'elle est ouverte. La main, la liberté que tu as en Dieu, elle est ouverte. La main de Dieu, elle est ouverte, elle est comme ça. Saisis, 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 ça a été payé pour toi. 2000 ans plus tard, saisis. Saisis, 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 prends-le par la foi, prends-le par la foi. Saisis cette opportunité. En qui nous avons, en Christ, nous avons quoi? Par la foi en lui, par la foi en Jésus, la quoi? La liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Vous savez ce que j'ai remarqué? La plupart, ils lisent comme ça. En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec culpabilité. La plupart n'ont pas la confiance, l'assurance de s'approcher avec une conscience purifiée vers le Seigneur parce qu'ils n'ont pas expérimenté la liberté que Dieu a déjà promise pour eux. Et tant qu'il y a une racine de culpabilité dans ton cœur, tu ne vas pas pouvoir expérimenter la plénitude de la liberté. Alors, est-ce qu'on veut s'approcher avec confiance envers Dieu? On veut s'approcher avec culpabilité. Tout a été pourvu pour qu'on puisse s'approcher de lui avec confiance. Alors comment on va s'en débarrasser de cette culpabilité? La façon dont le Seigneur me l'a montré, c'est, il m'a dit clairement que c'était par le biais de la rédemption. Et heureusement, nous avons un brillant homme du Nouveau Testament qui nous aide. Et j'ai remarqué, et lorsque vous pouvez tourner en Romains chapitre 8, versets 32 et 33, et j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens avaient une compréhension partielle de la rédemption, au lieu d'en avoir une compréhension totale. Mais si on n'a qu'une compréhension partielle de la rédemption, on va comprendre intellectuellement que nos péchés sont pardonnés, mais émotionnellement, on va toujours être en prison à cause de la honte, à cause de la culpabilité et à cause d'un complexe d'infériorité. Mais le travail de la rédemption, il a commencé à la croix, mais il n'a pas fini à la croix. Et beaucoup de croyants se sont arrêtés à la crucifixion du Seigneur. Mais regardons ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici en Romains chapitre 8, versets 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? Vous savez que lorsque vous êtes dans la culpabilité, c'est le fait d'être accusé. Donc là, on parle de culpabilité, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc Dieu, c'est la plus haute autorité. Donc ce que Dieu va justifier, il n'y a rien au-dessus de lui. Donc on va voir ce que Dieu a justifié. Et lorsqu'on comprend ce que Dieu a justifié, à ce moment-là, ça va nous donner une base pour être dans la liberté. Verset 34. Qui les condamnera? Et regardez bien la suite. En quelques mots, l'apôtre Paul nous résume la totalité de la rédemption. Regardez ce qu'il dit. Christ est mort. Et ensuite, il continue. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Alors, la plupart de ceux qui croient en Jésus, vous leur demandez pourquoi Christ est mort. Et la plupart vont vous dire, ça c'est facile, j'arrive à répondre. Mais lorsque vous leur demandez pourquoi est-il ressuscité, là, ça commence à être un petit peu plus difficile. Et lorsque vous leur demandez pourquoi est-ce qu'il est monté à la droite du Père, là, vous les avez perdus. La totalité de la rédemption, c'est la crucifixion, la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus à la droite du Père. La rédemption, ce n'est pas seulement la crucifixion du Seigneur. Parce que si nous nous arrêtons à la croix, nous n'allons pas pouvoir bénéficier pleinement de la liberté que Christ a acquise pour nous. Il n'y a pas de rédemption partielle, la rédemption est totale. Mais la rédemption, elle se résume en trois mots. La crucifixion du Seigneur, la résurrection du Seigneur, l'ascension du Seigneur à la droite du Père. Et si nous nous arrêtons à la croix, on va avoir un problème de culpabilité. Et là, je vais vous montrer pourquoi. Et nous allons détailler ces trois mots ici. Christ est mort, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Et si vous avez votre Bible ouverte, je vous conseille d'inscrire dans votre Bible le bien plus. Parce que Paul dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. C'est comme si Paul y mettait l'emphase davantage sur ce qui s'est passé après la croix que ce qui s'est passé à la croix. Et il dit bien plus. Moi, je l'ai souligné dans ma Bible parce que ça me marque tellement ce bien plus. Il n'est pas en train de négliger, et ne me méprenez pas, je ne suis pas du tout en train de négliger le fait que Christ allait à la croix. Je suis en train de dire que la rédemption ne s'arrête pas à la croix. C'est le commencement de la rédemption. La croix n'est pas la fin de la rédemption, elle est le commencement de l'œuvre rédemptrice de Christ pour nous. Alors, détaillons ça ici, et vous verrez que ça va nous donner, de comprendre cette œuvre totale de Christ, ça va nous donner une telle assurance que la culpabilité n'aura plus de quoi s'enraciner en nous. Et ça va nous donner une position de justice. Et cette position de justice nous donne une base pour exercer l'autorité et vous ne vous faites plus piétiner. Et certaines fois, on parle toujours que oui, mais l'ennemi a des forteresses dans ta vie, etc. C'est certainement vrai, certaines fois. Mais lorsque vous comprenez et que vous êtes libéré de la culpabilité, vous avez une forteresse contre l'ennemi. Est-ce que ça vous intéresse de vivre comme ça? Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un bastion contre? On parle toujours de l'ennemi qui est un bastion contre nous, mais est-ce que ça vous intéresse d'avoir un bastion vous-même contre l'ennemi? C'est ça qui nous intéresse. C'est ça que Christ a fait pour nous. C'est ça la liberté. Et parce que Paul, dans Galates 5:1, lorsqu'il continue, il dit « Demeurez donc ferme ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ nous a donné l'opportunité d'être libre, mais nous avons la responsabilité d'être libre. Et il nous donne les moyens, il nous donne les armes, il nous donne sa parole, il nous donne son esprit, il nous donne son nom, il nous donne son sang. On va détailler tout ça. Christ est mort. Et là, nous parlons de la crucifixion de Jésus. Christ est mort. Nous parlons de la crucifixion de Jésus. Première étape de l'œuvre de la rédemption. Première étape de ce que Christ va faire pour l'humanité, pour racheter l'humanité de ses péchés. Alors ma question, c'est quel est le but de la crucifixion? Christ est mort, on parle de la crucifixion de Jésus, mais quel est son but? Quel est le but de la crucifixion? Quelle était l'œuvre que Christ était en train de faire lorsqu'il était précisément sur la croix du calvaire? Et je vous invite à tourner en Hébreux chapitre 9. Vous êtes là? Chapitre 9. Mes amis africains m'ont dit que, Philippe, tu es suisse dans la vie de tous les jours, mais tu prêches comme un Africain. Donc ça m'arrive de m'emporter un petit peu. Mais c'est bon, n'est-ce pas? De pouvoir saisir, vous savez, vous ne pouvez pas saisir les choses seulement avec l'intellect. Vous devez saisir les choses avec le cœur. Vous ne pouvez pas seulement saisir le logos, la parole écrite de Dieu, vous devez saisir le rhéma, la parole révélée de Dieu qui frappe votre cœur et qui vous cloue sur place, et là, boum, la révélation arrive, et vous ne vivez plus jamais la même chose. Et regardez, nous parlons ici, nous essayons de comprendre quel est le but de la crucifixion de Jésus, et nous sommes en Hébreux chapitre 9, verset 22. Ce verset nous enseigne que presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu a pu nous pardonner en Christ Jésus parce qu'il y a eu effusion de sang. Quelque chose de très difficile à comprendre pour nous qui sommes de l'Occident. Vous savez, moi j'ai grandi en Suisse, on n'a pas l'habitude de faire des sacrifices dans ma culture. Mais là, Paul écrit à des Hébreux, à des gens qui connaissent exactement de quoi on parle. parce qu'ils avaient l'habitude, sous l'ancienne alliance, de faire des sacrifices pour pouvoir couvrir leur péché pendant une année. Et là, Paul, ou, enfin, on n'est pas sûr que ce soit Paul, mais certains pensent que c'est Paul qui écrit aux Hébreux, nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Peut-être que si vous êtes d'Amérique centrale, ou d'Amérique du Sud, ou d'Afrique, vous avez une meilleure compréhension qu'on faisait des alliances de sang, par exemple. Hein, ou, par exemple, on faisait des sacrifices humains pour satisfaire un certain Dieu. Mais là, le sacrifice, c'est Jésus. Et ce verset nous enseigne qu'il a fallu que le sang de Jésus coule. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour que nous soyons nous-mêmes pardonnés. Donc le but de la crucifixion de Jésus, c'est le pardon de l'humanité. Le sang devait couler selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et Jésus n'est pas venu abolir cette loi, il est venu l'accomplir. La deuxième chose que l'on peut mettre en exergue, pourquoi Jésus-Christ est-il ressuscité, c'est que, au verset 17, nous dit, de Hébreux 9, « Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. » Et dans votre Bible, elle est divisée en deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais ce testament, nous ne pourrions pas saisir les promesses qui y sont dedans sans la mort du Seigneur Jésus. Un testament n'est valable que si quelqu'un est mort. Un testament est valable seulement si la personne n'est plus de ce monde. Et il a fallu que Christ meure, non seulement pour le pardon de nos péchés, mais pour nous léguer un testament qu'il a scellé par le sang pour que nous puissions hériter de ce testament. Et lorsque j'enseigne au fondement du croyant, je rigole souvent là-dessus, mais il y a une telle vérité. Si vous recevez un testament dans le naturel, vous allez vous empresser de le lire. Vous allez dire, ah, est-ce qu'il y a une maison? Est-ce qu'il y a une voiture? Et vous savez qu'un testament, c'est un document légal officiel. Maître Dogo, est-ce que je me trompe? Un testament, c'est un document officiel, légal, et vous avez la preuve légalement que vous pouvez saisir ces choses. Mais voyez-vous, nous avons un Ancien et un Nouveau Testament, et le problème, c'est que nous ne prenons pas le temps de les lire. Et si nous ne prenons pas le temps de les lire, on ne peut pas découvrir ce qui nous appartient. Et on ne peut pas, à ce moment-là, revendiquer ce qui nous appartient. Parce que Paul, il dit, demeurez donc ferme, parce qu'il y en a un qui va essayer de voler ce qui vous appartient. Mais si tu ne sais pas ce qui t'appartient, comment est-ce que tu peux revendiquer ce qui t'appartient? En lisant ton testament et en allant chercher les promesses que Dieu a acquises pour toi, qui sont scellées dans le sang et tamponnées, elles t'appartiennent. Deux raisons principales, le pardon des péchés, deux raisons principales de la crucifixion, le pardon des péchés et qu'on puisse avoir un testament officiel. Parce qu'un testament n'a aucune valeur tant que le testateur, celui qui a écrit le testament, vit. Vous êtes tous avec moi. Deuxième chose, Paul met l'emphase dans Romains 8, 34, nous dit que Christ, dans son œuvre de rédemption qui a commencé à la croix, il met l'emphase, après il dit « bien plus ». Il est ressuscité. Donc là, nous parlons de quoi? Nous parlons plus de la crucifixion du Seigneur, nous parlons de la résurrection du Seigneur. Et mes amis, si votre foi n'est pas ancrée dans la résurrection du Seigneur, l'apôtre Paul va vous dire que votre foi est vaine, que vous êtes les plus malheureux des hommes ou des femmes et que vous seriez encore dans vos péchés. Est-ce que la résurrection du Seigneur est importante? Elle est capitale. L'évangile, c'est la crucifixion, la résurrection et l'ascension du Seigneur. On ne peut jamais omettre la résurrection du Seigneur. Alors ma question c'est, est-ce que vous croyez en la résurrection du Seigneur? Et on va voir que la résurrection du Seigneur est la base pour que nous soyons libres et plus dans la culpabilité. Mais est-ce que c'est scellé dans votre cœur? Ou est-ce que vous pensez que l'agneau de Dieu est toujours à la croix? C'était un passage obligé, mais il n'y est plus. C'était un passage obligé pour nous léguer un testament, pour nous pardonner de nos péchés. Mais maintenant, il est bien plus. Il est ressuscité. Et qu'est-ce qui a donné une telle hardiesse aux apôtres? C'est parce qu'ils ont vu le Seigneur ressuscité. Et si ce n'est pas scellé dans ton cœur la résurrection du Seigneur, tu ne vas avoir aucune base pour être hardi. Tu ne vas avoir aucune base pour être dans l'assurance, dans ta foi chrétienne. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc bien plus, il est ressuscité, nous parlons de la résurrection du Seigneur, de la résurrection de Jésus. Maintenant, ma question est la suivante. Quel est le but de la résurrection? Pourquoi Christ est-il ressuscité? Je l'ai entendu. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Et là, je vous demande d'accrocher vos ceintures. Parce que si vous allez Père, je prie pour un esprit de sagesse et de révélation. Que ce que je vais partager maintenant à l'instant ne soit pas quelque chose que l'on saisisse seulement avec l'intellect, mais qu'on saisisse avec le cœur. Romains chapitre 4, verset 25. Et là, ça va vous donner votre bastion, votre forteresse contre l'ennemi de votre âme. Verset 25, et pour pouvoir jouir de cette liberté. Vous savez que Dieu veut qu'on jouisse de cette liberté? Et imaginez, votre enfant, vous le condamnez pour une personne. Et la personne pour qui vous avez fait ça reste en prison. Comment vous réagiriez? Je répète, vous voulez libérer quelqu'un. Mais la condition, la rançon, c'est que votre enfant meure. Vous donnez votre enfant. Mais la personne qui était censée libérer dit « Ah non, je préfère rester en prison. » Quelle serait votre réaction? Et moi, je crois que le cœur de Père de Dieu saigne quand ses enfants sont encore en prison. Je crois que son cœur pleure quand nous restons dans la culpabilité au lieu de bénéficier de la liberté. Parce qu'il y a un tellement grand prix qui a été payé. Alors nous sommes dans Romains 4, 25, dans le but de découvrir l'objectif de la résurrection. Qui a été livré pour nos offenses. Donc nous parlons ici de Jésus. Et est ressuscité pour notre justification. Deux choses ici. Première chose, lorsque vous étiez à l'école, vous aviez des cours de grammaire française. Et lorsqu'on vous a appris que la conjonction pour, c'est une conjonction de... Non, de but. Pour, c'est une conjonction de but. Pour implique un but, un objectif. Conjonction de but. Bon, hein, on ne va pas vous renvoyer à l'école, n'est-ce pas? Il est ressuscité, donc la résurrection du Seigneur a un objectif. La résurrection du Seigneur a un but. Quel est ce but? Est-ce que c'est la justification de Jésus ou c'est notre justification à nous? La nôtre. Jésus n'avait pas besoin d'être justifié. Il n'avait pas besoin d'être déclaré juste. Il était innocent aux yeux de Dieu. C'était l'agneau sans tache de Dieu. Mais nous, nous avons besoin d'être justifiés parce que Jésus a dit que si tu dis à quelqu'un « raca », c'est-à-dire « imbécile », tu es déjà condamné. Il n'y a personne qui peut atteindre le standard de Dieu. Il n'y en a qu'un, il s'appelle Jésus. Et cette liberté ou cette grâce ou ce salut ne s'obtient pas par les œuvres, il s'obtient par la grâce. Tu veux te présenter devant Dieu en présentant tes œuvres ou en présentant les œuvres de Jésus? Moi, je choisis la deuxième option, juste pour être sûr. Mais il est ressuscité pour notre justification à nous, pas pour la sienne. Sachez que tout ce que Jésus a fait, c'était pour nous, pas pour lui-même. Il est mort à la croix pour le pardon des péchés et pour nous donner un testament. Il est ressuscité pour notre justification. Terme difficile qu'on va simplifier. Lorsque vous vous justifiez, vous êtes en train d'essayer de prouver votre innocence. Lorsque je me chamaillais avec mes deux frères, un est devenu papa, et on avait tendance à dire « Non, 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 maman, papa, c'est pas moi, c'est lui. » Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Tu étais en train de te justifier, c'est-à-dire que tu essayais de prouver à tes parents ton innocence dans cette situation. Lorsque tu te justifies, tu essayes de prouver le fait que tu es innocent. Tout le monde est là? D'accord. On reprend ce contexte dans Romains 4, 25. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à saisir? Vous êtes prêts à comprendre? Pas seulement avec la tête, mais avec le cœur. Qui a été livré pour nos offenses? Oh, I'm getting excited. Je deviens enthousiasmé ici. Qui a été livré pour nos offenses? Et est ressuscité pour notre justification. Je reprends mon terme ou ma définition et est ressuscité pour prouver notre innocence. Est-ce que vous avez saisi? Jésus, le but de la résurrection de Jésus, c'est de prouver ton innocence aux yeux de Dieu et mon innocence auprès de Dieu. Et si la résurrection n'est pas scellée dans ton cœur, ta foi, elle est bancale. Parce que la résurrection, c'est ce qui te donne ta position de justifié, déclaré juste, déclaré innocent. C'est comme maintenant, après la résurrection de Jésus, Dieu avait un gros marteau, c'est pour ça qu'il y a cette image, il tape sur le tribunal, verdict, l'humanité rachetée par le sang de Jésus, non coupable. Alors quel est le contraire de l'innocence, c'est la culpabilité. Mais là, tu as une base tellement forte de comprendre que Jésus est ressuscité pour prouver ton innocence. Tu as une base tellement forte pour saisir ta liberté et ne pas te laisser à nouveau mettre, comme dit Paul, sous le joug de l'esclavage, sous le joug de la servitude. La culpabilité va venir vers toi comme un joug d'esclavage et de servitude pour entraver la liberté. Mais maintenant, tu sais. Et lorsque la culpabilité ou tout autre joug essaye de venir t'atteindre, tu as une base solide. Il est ressuscité pour prouver mon innocence. Je reste là, je ne bouge pas, c'est ce que Christ a fait pour moi. Il est ressuscité pour prouver notre innocence. Est-ce qu'il est ressuscité pour prouver votre culpabilité? Pour prouver notre innocence. Merveilleux Jésus. Incroyable Seigneur. Non seulement il nous pardonne, non seulement il nous donne un testament, mais en plus il nous déclare innocents aux yeux de Dieu. Retenez que le diable dans l'Apocalypse est appelé l'accusateur des frères, de ceux qui sont en Christ, pas de ceux qui sont en Adam. La plus grande supercherie ou mensonge de l'ennemi de notre âme, c'est de te faire croire que toi tu es coupable et que lui il est libre. La plus grande supercherie de l'ennemi de notre âme, c'est de te faire croire que toi tu es toujours coupable et que lui, il est libre. Mais toi, tu dois le lier, la Bible nous dit. Il y a un verset d'autorité qui nous dit « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » C'est ton rôle, c'est à toi, c'est ta responsabilité de rester dans cette liberté. Mais d'abord, tu dois saisir que tu es déjà libre. Est-ce que vous saisissez? J'ai pas envie d'aller trop vite. Est-ce que vous avez saisi ça? Qu'il est ressuscité pour prouver mon innocence. Mais il y en a un qui va essayer d'accuser ton innocence. Mais là, tu as une base non seulement de justice, mais tu as une base d'autorité. Et c'est là que tu deviens une forteresse, un bastion contre ce que l'ennemi essaye de faire dans ton cœur. Et j'ai mis une petite phrase à retenir. Vous savez, quand je fais les enquêtes avec les jeunes, avec les adolescents, je leur mets toujours à retenir. S'il y a une chose que tu dois retenir, c'est ça. Mais je l'ai fait aussi pour vous. À retenir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la résurrection du Seigneur? En Christ, nous avons été justifiés. Innocentés. Certains, vous avez encore du mal à le croire. Mais laissez ça descendre dans votre cœur. Nous avons été justifiés, innocentés par Dieu, et le diable a été condamné, accusé par Dieu. Ouh, mais on pourrait aller à la maison, là. Ou on pourrait commencer à danser. On va reprendre la louange dans un instant. Mes amis, s'il n'y a qu'une seule chose que vous devez saisir, c'est celle-là. Et jamais l'inverse. C'est toi qui es innocenté, c'est toi qui es libre, c'est toi qui es en règle avec Dieu. Et c'est lui qui est condamné, c'est lui qui est culpabilisé, c'est lui qui va finir. Il n'y a aucune rédemption pour le diable. C'est foutu pour lui. Mais il y a la rédemption, le rachat par le sang de Jésus pour l'humanité. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Mais vous voyez que la puissance de l'évangile ne s'arrête pas à la crucifixion. Elle va jusqu'à la résurrection et elle va même au-delà. Maintenant, on va traiter notre dernier point. Et ce dernier point, c'est de savoir pourquoi Jésus est-il monté à la droite du Père. C'est la dernière phase de Romains 8, 34. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et avant de traiter ce point, j'aimerais vous donner une petite astuce qui m'a énormément aidé dans ma vie chrétienne, de faire la différence entre la conviction de l'Esprit de Dieu et la condamnation de l'ennemi. Deux choses totalement différentes avec deux objectifs totalement différents. Lorsque le Saint-Esprit te convainc que tu dois mettre en règle quelque chose dans ta vie, l'objectif du Saint-Esprit, qui est appelé l'Esprit de vérité, le but de la vérité, c'est d'affranchir. Jean 8, 31, 32 nous le dit. Le but de la vérité, c'est d'affranchir. Donc, le but du Saint-Esprit, qui est appelé Esprit de vérité, c'est de t'emmener dans la liberté ou de renforcer la liberté que Christ a acquise pour toi à la croix. Chaque fois que le Saint-Esprit te convainc de quelque chose, laisse-toi guider, laisse-toi conduire, laisse-toi orienter par lui parce qu'il t'emmène dans la liberté. En revanche, ça c'est la conviction de l'Esprit-Saint. En revanche, la condamnation de l'ennemi, c'est quelque chose, c'est une chape de plomb qui vient sur toi. qui te dit que ouais, tu n'as pas tu n'es pas digne pour être dans la présence de Dieu. Tu n'es pas. Alors là où on voit vraiment ça, c'est juste avant la Sainte Cène. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que cette semaine j'ai été un bon gars ou pas trop? Et là on hésite. Mais sache que tu dois comprendre que soit l'esprit te convainc de quelque chose et il t'emmène dans la liberté, soit c'est le diable qui essaie de te condamner pour t'emmener et te remettre sous le joug de l'esclavage et de la servitude. Deux choses totalement différentes. Que Dieu nous donne le discernement, mes amis. Parce que l'objectif, c'est toujours la liberté. C'est jamais le retour dans l'esclavage. C'est jamais le retour dans la servitude. Il le dit ici. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mais si tu n'arrives pas à discerner entre la conviction de l'esprit et la condamnation de l'ennemi, tu vas retourner dans l'esclavage. Comment savoir si quelqu'un est en train de croire les bonnes choses? Vous pouvez le voir. Si quelqu'un croit la vérité, vous allez voir la liberté sur eux. Si quelqu'un croit le mensonge, vous allez voir l'esclavage et la servitude sur eux. De l'abondance du cœur, la bouche parle à nouveau. C'est d'abord des choses qu'on doit saisir dans le cœur et qui après, c'est... Vous savez, toute l'œuvre de la foi, c'est d'abord intérieur avant de devenir extérieur. Mais nous nous sommes toujours enseignés que ça doit d'abord changer à l'extérieur avant de changer à l'intérieur. Non, non, avec Dieu, ça change d'abord en toi et ça se manifeste à l'extérieur. D'abord, tu dois saisir les choses dans ton fort intérieur, dans ton esprit, et ensuite, ça se manifeste et les fruits se manifestent. Mais certaines fois, on veut des changements extérieurs, mais on n'a rien changé dans notre cœur. Et ça ne va pas. Ça ne dure pas. Donc, j'en suis à mon dernier point. Comme quoi, Christ est non seulement crucifié, il a non seulement été crucifié, il a non seulement été ressuscité pour notre justification. Et le troisième point ici, c'est qu'il est à la droite de Dieu, nous dit Paul, et il intercède pour nous. Et là, nous parlons concrètement de l'ascension de Jésus. Donc la rédemption, c'est trois choses. La crucifixion du Seigneur, la résurrection du Seigneur, l'ascension du Seigneur. Ce n'est pas que la crucifixion. La crucifixion était un passage obligé, mais ce n'est pas l'acte final de la rédemption. L'acte final de la rédemption, du rachat de l'humanité, de ses péchés, c'était wow, lorsque Christ s'est assis à la droite triomphante du Père. Il siège avec lui, et la Bible nous dit qu'on siège avec lui. Éphésiens 2:6. Alors, quel est le but de l'ascension de Jésus? Pourquoi Jésus est-il monté à la droite du Père? Ben, Paul, il nous le dit ici, dans Romains 8 à nouveau. Vous savez, certaines fois, il ne faut pas aller chercher plus loin. La Bible est claire. Il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu? Il intercède pour nous. Alors, est-ce qu'il intercède pour lui-même? Non. La Bible nous dit qu'il intercède pour nous. À nouveau, tout ce que Jésus a fait, il l'a fait. Est-ce que vous aimez Jésus dans cette salle? Il intercède pour nous. Et si, par exemple, tu n'as jamais entendu parler Jésus de cette façon, tu as toujours cru que Jésus, c'était un bébé dans une crèche. Moi, je te présente le Jésus, magnifié, élevé, à la droite triomphante de Dieu. Et si peut-être tu te dis, ce Jésus-là, je ne le connais pas, à la fin de la célébration, tu auras l'occasion de rencontrer cette personne qui veut t'emmener dans la liberté parce qu'il a payé pour elle. Alors, la Bible nous dit ici qu'il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Alors, un mot encore un peu compliqué qu'on retrouve dans les Écritures, mais qu'il faut bien comprendre, c'est le mot intercesseur. Intercesseur. Intercesseur, c'est celui qui fait l'intercession. Et dans le mot intercesseur, vous avez le mot inter, qui veut dire entre. Et donc, Jésus, en fait, il est notre intercesseur, c'est-à-dire qu'il est entre Dieu et l'humanité. Il est le médiateur entre Dieu et l'humanité. Il est celui qui se tient entre Dieu et entre l'humanité. Il est intercesseur. Et qu'est-ce qu'il fait dans son ministère d'intercession? Et c'est là que ceux qui vivent dans la culpabilité ne comprennent pas encore le ministère d'intercession de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'un intercesseur, qu'est-ce qu'il fait? Un intercesseur, c'est quelqu'un qui se tient entre. Il se tient dans la brèche pour réparer une brèche. C'est quelqu'un qui se tient dans une brèche. Il y a une faille, peut-être qu'il y a une faille dans ta vie, il y a une faille dans ta communion avec le Père, mais il y a une brèche. Donc Jésus, en tant qu'intercesseur, il se tient entre dans cette brèche et son but, c'est de réparer cette brèche. Ça, c'est son ministère d'intercession. Intercéder, et Maître Degout peut-être va me corriger, mais intercéder, c'est aussi plaider en faveur de quelqu'un. Un intercesseur, il plaide en ta faveur. Imagine que Jésus, à la droite du Père, il n'est pas au chômage, il n'a pas arrêté de travailler, il est en train de plaider en ta faveur auprès du Père. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui intervient dans l'intérêt de quelqu'un d'autre. Jésus, à la droite du Père, il intervient toujours en faveur de toi qui es racheté du Seigneur. Est-ce qu'on voit la plénitude de ce qu'il a fait pour nous? Est-ce qu'on comprend la plénitude de la rédemption? Est-ce qu'on comprend qu'il n'est pas en train de se tourner les pouces à la droite du Père, mais il est toujours en train de plaider en notre faveur? Il est toujours en train d'intervenir entre notre faveur? Il est toujours en train de parler en notre faveur? Et je vais vous montrer dans les deux points pratiques comment on peut activer ce ministère d'intercession. Mais qui plaide d'habitude? C'est un avocat. Et un avocat, il a pour rôle de prendre votre défense. Jésus, à la droite du Père, prend ta défense. Lorsque l'ennemi de ton âme, l'accusateur des frères, essaye de mettre la culpabilité sur toi. Alors, deux points pratiques pour terminer. Comment être libéré de la culpabilité pratiquement? Je vois deux choses. Premier point, la culpabilité veut venir de l'ennemi de ton âme, étant donné qu'il est accusateur. Il est contre le fait que tu aies devenu justice de Dieu. Parce qu'il y a eu rédemption pour toi et il n'y a pas de rédemption pour lui. Résultat, il te déteste. Non, mais il faut saisir ces choses spirituellement, mes amis. Parce que sinon, vous allez vaciller, comme il dit Jacques. Il n'y a aucune rédemption pour lui, il y a rédemption pour toi. Résultat, il te hait. Dieu t'aime, le diable te hait. C'est facile, non? Ok? Non, mais certaines fois, on fait des schmick-schmack spirituel et on essaie de spiritualiser toute chose au lieu de revenir à la foi d'un enfant. Jésus plaide dans notre... Alors, lorsque c'est le diable qui va essayer de t'accuser, comment est-ce qu'il va le faire? Il va essayer de le faire en te disant que tu n'es pas digne de la présence de Dieu, tu n'es pas digne de prendre la Sainte Cène, parce qu'il y a deux minutes, tu as eu une mauvaise pensée, et bla, 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 bla. Mais ne viens pas dans la présence de Dieu en ton propre nom. Viens dans la présence de Dieu en invoquant le ministère d'avocat de Jésus et tu plaides et tu viens dans la présence de Dieu dans le nom de Jésus. Si tu viens en ton propre nom, c'est les carottes sont cuites. On dit ça en France aussi. Mais lorsque tu te présentes devant Dieu, tu dis, malin, je ne me présente pas dans la présence de Dieu avec mes propres forces, avec ma propre justice. Je revais la justice de Dieu, je revais le sang de Jésus et je me présente dans le nom de Jésus. Mais si vous dites à quelqu'un, vous êtes accusé au tribunal, vous dites, hé, mon avocat, il va plaider en mon nom, il va plaider pour moi et c'est maître tel un tel. Oh purée, lui il est connu là, il faut faire gaffe. Mais Jésus est connu dans les cieux, il est connu dans le tabernacle, il est connu dans le sanctuaire, le nom qui est dessus de tout nom. Et lorsque... Il est bloqué. Comment est-ce que tu fais appel en tant que Jésus comme ton avocat? 1 Jean 2, 1 nous dit qu'il est l'avocat et il est juste. Tu plaides au nom de Jésus et tu plaides le sang de Jésus. Présente-toi devant Dieu dans le nom. Prie dans le nom. Ne prie pas en ton nom parce qu'en fait, ton nom dans les lieux célestes, il n'a pas autant de vibrations que le nom de Jésus. C'est pour ça que lorsque nous intercédons et que nous nous mettons dans la brèche pour quelqu'un d'autre, pour essayer de réparer cette brèche, la qualité de l'intercession va être déterminée par la qualité de l'intercesseur. Et lorsque tu intercèdes au nom de quelqu'un d'autre et au nom de Jésus, là il y a des résultats. Et lorsque tu te présentes devant Dieu, tu ne te présentes pas avec ta propre justice, avec tes propres œuvres, avec tes propres facultés, tu te présentes comme racheté et lavé par le sang de Jésus. Et là, tu saisis réellement ce que Jésus est en train de faire à la droite du Père actuellement. Il a son ministère d'avocat et il a aussi son ministère d'intercesseur. La deuxième chose qui peut te culpabiliser en dehors de l'ennemi de ton âme, c'est le péché. Vous êtes d'accord? Je pense que dès que nous commettons un péché et nous le savons, et c'est clair, sa parole le dit, nous allons nous sentir culpabilisés automatiquement. Mais Jésus, dans son ministère d'intercession, là où il y a une faille dans ta communion, il veut se tenir dans cette faille et il veut réparer cette faille. Comment est-ce que tu actives le ministère d'intercession de Jésus? Tu confesses ton péché et tu renonces à ton péché. Parce que s'il y a une chose que nous devons établir cette année, le péché ne va jamais t'emmener dans la liberté. Jamais. Ça, c'est aussi un mensonge. Le péché ne va jamais t'emmener dans la liberté. Et lorsque tu as péché, et tu le sais, tu as fait appel au ministère d'intercession de Jésus qui va se tenir dans la brèche. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 1,9 que celui que nous pouvons confesser nos péchés et qu'il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a aucune iniquité qui est plus forte que le sang de Jésus. Et là, je le vois tout le temps. Des fois, je demande aux personnes, est-ce que le sang de Jésus est plus fort ou il est plus faible que ce que tu viens de faire ? Ah ben, il est plus fort. Eh ben, alors, vis en conséquence. Le sang de Jésus est plus fort que nos iniquités. Il peut purifier toute iniquité. Mais comment est-ce que je reviens dans cette position où Jésus répare la brèche pour moi lorsque je confesse mon péché et j'y renonce ? Et c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance n'est pas une bonne résolution pour 2014. Une résolution, on la prend, on l'arrête. Une repentance, c'est se tourner d'une ancienne façon de vivre pour entrer dans une façon de vivre plus digne, plus noble, qui nous emmène dans la liberté. Est-ce que vous avez reçu quelque chose aujourd'hui ? Est-ce que vous comprenez que Jésus n'a pas seulement été crucifié, mais qu'il a été ressuscité et qu'il est monté à la droite du Père ? C'est ce qu'on appelle la totalité de la rédemption, la totalité de l'œuvre rédemptrice, la totalité du rachat de ce qu'il a fait pour nous. Alors, je pense que, comme je disais avant, il serait triste que nous repartions de ce lieu avec un sentiment de culpabilité. Parce que nous ne serions pas en train d'honorer la liberté que Christ a acquise pour nous. Alors, il y a deux choses. Peut-être que c'est l'ennemi de ton âme qui te culpabilise. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu plaides au nom de Jésus et tu invoques le sang de Jésus ? Ou peut-être c'est un péché que tu as commis. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu le confesses de ta bouche. Il y a quelque chose qui se passe quand tu confesses de ta bouche. Ce n'est plus dans les ténèbres, c'est à la lumière. Et vous savez qui règne dans les ténèbres, n'est-ce pas ? Vous savez qui règne dans la lumière. Et dès qu'il y a une confession, dès qu'on le parle, dès qu'on le met à la lumière, la forteresse s'écroule. Parce que c'est à la lumière. Et les ténèbres ne résistent pas à la lumière. Alors, selon votre cas, essayez maintenant, c'est l'heure d'analyser notre cœur et de repartir de ce lieu plus libre que lorsque vous y êtes entré. Est-ce que vous comprenez que c'est la volonté de Dieu ? Est-ce que vous comprenez que nous ne sommes pas en train d'honorer Dieu lorsque nous restons en prison de culpabilité, de honte et d'infériorité ? Est-ce qu'on va honorer ce que Christ a fait pour nous ? Est-ce que nous allons honorer sa crucifixion, sa résurrection et son ascension à la droite du Père ? Et si tu as l'impression que tu es loin de Dieu, moi j'aimerais te dire, ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de toi, c'est toi qui t'es éloigné de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché, c'est eux qui se sont égarés. Et Dieu a tout de suite mis en action le plan de la rédemption, le plan pour racheter l'humanité de ses péchés, pour pouvoir à nouveau les embrasser dans sa sainteté. Il est 3 fois saint, n'oubliez pas. Et il n'y a que le sang de Jésus qui purifie. Alors si tu es chrétien, là je parle des chrétiens, et qu'il y a un sentiment de culpabilité. Laisse la conviction de l'Esprit de Dieu agir, parce qu'il va t'emmener dans la liberté. Et lis ce qui essaye de te condamner et ce qui t'y ramène dans l'esclavage. Analysez vos cœurs un instant, si vous êtes chrétien. Et dites, je repars de ce lieu, dans la liberté que Christ m'a donnée. Dans la liberté que Christ a payée pour moi. Et comme je l'ai dit auparavant, tu n'as jamais entendu parler de Jésus de cette manière. Tu n'as jamais entendu la rédemption magistrale qu'il a faite. Et le Saint-Esprit est en train de taper à ton cœur. Il est en train de te convaincre que tu as besoin d'un sauveur. Parce que par tes propres œuvres, tu ne peux pas accéder au trône de Dieu. Mais l'Esprit te convainc et te dit, tu ne peux pas y arriver par tes propres forces. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux accepter la force de celui qui l'a fait pour toi. Et s'il y a votre cœur qui commence à s'agiter, s'il y a votre cœur qui commence à s'animer, c'est l'Esprit qui veut vous conduire dans la liberté. Et il vous montre que vous avez besoin de Jésus. Et peut-être parmi les personnes qui sont ici, tu n'as jamais rencontré Jésus personnellement. Tu n'as jamais fait un pas et te dis « Waouh !» Tu n'as jamais réalisé que tout ce qu'il avait fait, c'était pour toi et pas pour lui-même. Et ce matin, tu prends une décision en levant ta main et tu te dis et tu décides dans ton cœur de prendre la main de Jésus et de le suivre et d'aller dans la liberté. Si c'est ton cas, sois libre. Ne le fais pas pour ton voisin. Ne le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Mais si l'Esprit apporte la conviction dans ton cœur que c'est l'heure de rencontrer Jésus dans ta vie, fais-moi un petit signe de la main. Et on va prier ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à repartir libre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rencontrer le Seigneur pour la toute première fois? Et là, d'autres, vous avez besoin de reconsacration. Ce n'est pas lui qui est parti. Dans la parabole du fils prodigue, le père a déjà les bras ouverts quand son enfant revient, avant même que l'enfant ait demandé pardon. On va prier pour terminer, et après il y aura bien sûr l'occasion de recevoir la prière pour les personnes qui le veulent, mais nous allons sceller ce qui a été dit dans la prière et nous allons prier au nom de Jésus, n'est-ce pas ? Père, que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Père, je prie pour tous les bien-aimés du Seigneur qui sont ici, qu'ils repartent dans ce lieu avec non seulement un sentiment plus large de liberté, mais aussi avec les outils de comment rester dans la liberté. Qu'ils puissent apprendre à activer le ministère d'avocat de Jésus et le ministère d'intercesseur de Jésus dans leur propre vie, dans leur propre communion avec le Père. Père, que tu viennes sceller par ton Esprit Saint maintenant ce que la parole a été semée. Père, je prie que cette semence reste incorruptible dans les cœurs des croyants. Et je lis celui qui veut venir choper la semence. Père, je lis aussi l'inquiétude qui étouffe la foi et qui ne permet pas de recevoir la parole pour qu'elle ne produise du fruit à 30, 60 et 100%. Scellé dans les cœurs. Gravé dans les cœurs. Que Christ a payé le prix maximum pour notre liberté. Et maintenant, nous décidons par la foi. La liberté a été obtenue par la grâce, mais elle se saisit par la foi maintenant. Saisissez dans le nom de Jésus. Saisissez ce qui a été obtenu pour vous. Saisissez ce qui a été payé pour vous.